Le 5 février dernier, c'était la journée de prévention du suicide et je suis aujourd'hui avec Jean de l'association SOS Amitié. Bonjour.
Bonjour.
Alors le suicide, c'est quelque chose que vous connaissez bien puisque votre association est à l'écoute des personnes qui appellent parce que justement elles ont cette envie de se donner la mort. Alors comment est-ce que vous appréhendez ce phénomène du suicide?
Oui, alors je voudrais préciser que on ne reçoit pas d'appels que des appels concernant le suicide. Hein. Le suicide représente à peu près 13% de nos appels. Hein.
D'accord.
C'est-à-dire à peu près 2000 appels par an.
Voilà,
Hein.
donc ça peut aussi être
Oui.
des personnes qui ont besoin de parler.
Voilà.
Okay.
Et donc le 5 février, c'est la journée de prévention du suicide et SOS Amitié fait partie du dispositif de divers organismes qui s'intéressent à la question du suicide. Et nous avons aussi d'ailleurs un label d'aide en santé attribué par le ministère de la Santé hein, qui atteste un petit peu de la validité de notre engagement. Comme je vous l'ai dit, alors le suicide en France, c'est quand même 10 000, il y en a 10 000 par an, trois fois plus chez les hommes que chez les femmes. Mais pour les tentatives de suicide, la proportion s'inverse. Les femmes font davantage de tentatives, mais
D'accord.
peut-être prennent-elles des moyens moins radicaux que les hommes, notamment chez les adolescentes. Alors, le taux de mortalité par suicide augmente avec l'âge, et chez les moins de 25 ans, c'est la deuxième cause de mortalité après les accidents de la route. Voilà un peu ce que c'est le suicide chez nous. Alors, à SOS Amitié, nous avons à peu près 2000 appels
par an,
qui évoquent le suicide. Alors, dans quel cadre recevons-nous ces appels? D'abord, nous respectons les personnes dans leurs convictions. On garantit la confidentialité de l'échange pour favoriser leur parole. On s'abstient de tout jugement, de toute influence confessionnelle, philosophique, morale ou politique, et on ne cherche pas à imposer une ligne de conduite.
Donc ça, c'est pour le cadre. Quel est l'objectif de cette écoute?
Les visées de l'écoute sont de desserrer l'angoisse de la personne qui appelle, de s'efforcer de dissiper les idées noires et de restaurer la confiance en soi ou le goût de la vie. Mais c'est pas toujours... Enfin, c'est très délicat. En réalité, on fait de la prévention, si on peut dire, mais on ne sait pas exactement ce que... La prévention se situe entre, comment dire, la dissuasion... Mais pas trop non plus, puisqu'on ne doit pas dicter de ligne de conduite. Alors c'est entre la dissuasion et l'accompagnement. L'accompagnement respectueux et acceptant.
Quel type d'appel recevez-vous? Comment ça se passe?
Alors, on a les appels que nous recevons, parmi les 2000 appels que nous recevons, si on pouvait les mettre en catégorie. On a d'abord les suicidants. C'est les plus rares. Ce sont les gens... Lorsqu'ils nous appellent, ils ont engagé le processus. Ils vont mourir. Ils nous disent, vous êtes la dernière personne à qui je parle, car les médicaments, ou que sais-je, vont faire leur effet. Alors à ce moment-là, ben, on écoute, bien sûr. On reste présent le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, toutefois, on juge bon de se retirer, se mettre en retrait, pour laisser la porte ouverte à une possibilité d'appel au secours que seule la personne peut faire. Pour ça, il faut que nous nous raccrochions respectueusement.
Vous pouvez pas lui proposer d'appeler les pompiers pour elle? Ça se fait pas?
Non, ça peut pas le faire parce que on n'est que sur de la parole. Donc ça peut être très émouvant, très 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 bouleversant et tout ça, mais ce n'est que de la parole et nous n'avons aucune, on n'a aucune preuve que c'est, comment dire, de ce qui se joue. Et on n'a aucune notion sur, aucune indication sur le lieu, sur l'identité de la personne.
C'est la personne elle-même qui est actrice.
C'est la personne elle-même.
De son devenir.
Voilà. Alors, il faut dire que notre conception, enfin, le suicide pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est l'ultime tentative d'un sujet pour s'extraire d'une souffrance devenue insupportable. Voilà. C'est-à-dire que nous partons du principe que il veut mourir parce que il ne peut plus vivre avec ce mal. Voilà.
Donc ça, c'est ceux que vous appelez suicidants. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre?
Alors, il y a les suicidaires. On les appelle ainsi. Ce sont ceux qui nous appellent parce qu'ils sont travaillés par des idées noires. Et ils ont un projet suicidaire. Parfois, ils ont déjà fait une tentative de suicide. Alors ceux-là, bien, on les écoute. Et toujours pareil, on essaie de leur faire dire leur souffrance. Qu'ils expriment cette souffrance. Qu'ils disent... pourquoi ils en ont tellement assez de tout, pourquoi ils n'en peuvent plus, qu'ils expriment cette lassitude jusqu'au bout.
Autant que le fait mots, d'exprimer peut les aider en fait à s'apaiser.
Ça peut. Et puis on essaie aussi de les sortir du cercle hypnotique de la douleur dans lequel ils sont pris parfois. Ils ne voient plus que la mort comme issue. Ils ne voient plus que ça. Ils sont comme hypnotisés, fascinés, sidérés. Alors, dans ces cas-là, on essaie de faire un pas de côté avec eux. Et alors, et parfois, ça passe par des, comment dire, en évoquant les implications concrètes de l'acte. C'est-à-dire leur dire, est-ce que vous avez pensé au mode opératoire? Comment allez-vous vous y prendre? Qui vous verra le premier? Votre entourage, comment vous imaginez ce que, comme cela, et alors, du coup, ça donne une, je ne sais pas l'effet
ça
que ça peut faire.
Ça leur fait prendre conscience.
Mais en tout cas,
cet acte,
ça donne une prise de conscience. Et bien souvent, l'expression de la souffrance s'atténue, se calme un petit peu, et on parle de choses graves et terribles, mais on en parle. Et donc, ça c'était par rapport au suicidaire. Mais le deuil, le suicide, provoque dans l'entourage de la personne qui s'est suicidée un choc extrême. Avec des images souvent associées à des images traumatiques, visuelles ou auditives, qui sont obsédantes et dont on ne peut pas se défaire.
Donc vous écoutez aussi les personnes qui ont vécu un suicide dans leur entourage.
Et voilà, voilà, une mère qui a perdu son enfant, un enfant qui a perdu un de ses parents, un époux qui a perdu sa femme, enfin bref, par suicide. Et donc ces gens-là sont souvent traumatisés. C'est un aspect, comment dire, collatéral du suicide, si l'on veut, mais qui est terrible. Et la douleur est d'autant plus vive que l'acte suicidaire garde une part irréductible de mystère. On ne peut pas savoir pourquoi. Alors on a des gens qui disent « je ne comprends pas, je n'arrive pas à y croire ». Et justement, la dynamique de notre échange va être de leur dire que il n'y a pas d'autre solution que d'admettre ce mystère. Admettre le mystère et en même temps admettre... l'absence, désormais.
Et l'accueillir.
Et l'accueillir. Il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y en a pas à chercher à comprendre. On ne peut pas comprendre. Ensuite, il y a « je suis révolté ». Parfois, on se révolte contre le défunt. On a l'impression qu'il a trahi. Pourquoi il m'a fait ça Là encore, on se rattache au mystère. L'interprétation, disons, de colère, par la colère, elle est peut-être pas valable. Il faut garder le mystère. Ça s'est passé. Il n'y a pas une seule cause. Il y a peut-être un faisceau de facteurs.
Il peut y avoir une culpabilité aussi, peut-être.
Il peut y avoir la culpabilité, oui. C'est, par exemple, j'ai honte, ou bien j'aurais dû. Il aurait fallu que. Il aurait fallu que je fasse quelque chose. C'est parce que je n'ai pas fait assez qu'il a commis cet acte. Alors là, on revient toujours, pareil, toujours au mystère, à l'inconnu de l'acte. Peut-être, on a toujours quelque chose à se reprocher soi-même, mais ça suffit pas à expliquer. Ça suffit pas. Alors la honte aussi, parfois, parce que on a l'impression, le suicide a longtemps été considéré, notamment par les religions, comme une infraction aux lois religieuses, ou bien par la société, aux lois sociales. Et pour l'Église catholique, je crois bien que c'est seulement en 1983 qu'on trouve un texte où il est dit que l'acte demeure condamnable, si on veut, mais pas la personne. Et donc, il y a encore dans les mentalités, dans les milieux frappés par le suicide, comme ça, eh bien, il y a cette honte, un peu de n'avoir pas su faire respecter
cela.
La loi de la vie ou la loi du Seigneur.
Oui.
Il y a aussi, j'ai peur, j'ai envie de le rejoindre. On sent que le suicide peut être contagieux.
Oui.
Tout peut arriver désormais. Maintenant que ça c'est arrivé, tout peut arriver. Et on perd espoir en la vie, on perd confiance en soi. Bien sûr. Et puis, je souffre trop. Personne ne peut comprendre ma souffrance. Et à ce moment-là, là, on parle. Et souvent, on a tendance à se replier sur soi dans ces cas-là. Puisque les autres, de toute façon, ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé. On se replie sur soi. Et à ce moment-là, des troubles dépressifs peuvent s'enraciner. Et à ce moment-là, il est bon d'encourager ces gens à aller se faire soigner un petit peu, ou se faire accompagner par un secours médicamenteux ou un secours psychologique.
Mais vous les soignez par l'écoute, ce qui est déjà Une première étape est très importante, en fait, d'écouter
oui,
ces personnes.
Voilà, c'est notre premier, c'est l'urgence, c'est ouais. de décharger la charge, d'enlever la charge affective.
Donc, une belle mission de cette association SOS Amitié. Et puis, vous proposez régulièrement des conférences. Et le 21 février prochain, à 18h30, vous organisez une conférence avec Boris Cyrulnik. Alors, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de votre invité du 21 février?
Alors, Monsieur Cyrulnik, Boris Cyrulnik, alors, il fera une conférence dont le titre est « Se mettre à la place de l'autre, bénéfice ou maléfice ?» Voilà. Alors, il s'est intéressé au suicide des enfants, mais des enfants de moins de 12 ans. Hein. Mm-hmm. C'est un autre problème, car à ce moment-là, ils n'ont pas conscience de l'irréversibilité du geste. Hein. Mais il est surtout connu pour le concept de résilience qu'il a développé. Hein. Mm-hmm. La résilience, c'est ce phénomène psychologique par lequel un individu traumatisé parvient à se reconstruire et à ne plus vivre dans le malheur. Voilà. Mmh. Il a cette formule, Boris Cyrulnik, sur la résilience. Il dit, le résilient dit oui à la vie, là où la vie lui a dit non. Je pense que sa conférence sera très intéressante pour tout un chacun et puis pour nous, pour nous aider dans notre écoute aussi.
Très bien. Donc ce sera le 21 février à 18h30 au théâtre Saint-Louis de Pau. Donc Boris Cyrulnik, invité par SOS Amitié. Merci beaucoup pour ce témoignage qui nous permet de mieux connaître ce phénomène du suicide, de mieux comprendre aussi. Merci pour ce que vous faites.